Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Et bon jeudi, bienvenue dans l'heure CV. On est un peu fébrile, excité ici à Boulevard 101. L'histoire de la dinde sauvage du côté de Louisville, je veux dire la dinde sauvage. Bon, feu dinde sauvage, elle a été abattue. Si vous n'avez aucune idée de ce que je parle en ce moment, rendez-vous sur la page Facebook de Boulevard 102.1. Vidéo virale, en fait, qui a pris d'assaut tout ce qui est réseaux sociaux hier. C'est un problème. C'est une calamité. C'est une situation tragique et urgente. La présence de dindes sauvages un peu partout sur le territoire du Québec en ce moment. Elles ont décidé de prendre d'assaut bien des territoires. Je comprends, là, on est chez eux, ils sont en liberté, dans la nature. Mais quand c'est rendu entre deux blocs d'appartements, moins chez elles, mettons, ces grosses dindes noires-là, puis elles sont très territoriales, intelligentes, et on va plus loin parce qu'on consultait des articles de biologistes dans les... oui, je vous le jure, on consultait ça, Jeff Fortin et moi, dans les dernières minutes, et ça court jusqu'à 65 km/h. C'est assez rapide, là. Hein? Et ça peut sauter de plus d'un mètre facile. Donc, une grosse dinde grassouillette, ce n'est pas la bienvenue hein, sur nos territoires au Québec. Et justement, Louisville, celle qui a couru après celui que j'appelle Michel dans la vidéo, elle a été abattue. Puis il y a quand même un bon problème en ce moment de dinde noire dans ce secteur-là. Et le maire de la ville s'est prononcé comme quoi tout le monde sort avec des bâtons de baseball aujourd'hui. Bon, il n'a pas demandé de les assommer, mais peut-être juste pour les tenir à l'écart, ce serait une idée. Ça me fait bien rire, mais en même temps, j'ai toute ma tête avec les habitants de Louisville et encore ceux un peu partout à Québec, dans la capitale nationale, dans Chaudière-Appalaches, qui vivent avec ces dindes-là trop près d'eux. Hey, c'est dangereux pour les enfants aussi. On rit. Moi, je ris pas, là. Mais on rit, mais c'est pas drôle, là. On rit jaune, finalement. Hier, beaucoup d'auditeurs m'ont envoyé des photos de dindes aperçues dans leur coin, soit en temps réel ou soit dans les dernières heures. Vous pouvez toujours le faire au 418-971-1021, recenser où elles se trouve. Bienvenue dans l'heure CV, mon nom est Pascal. À 10h03, on se rend jusqu'à 11 ensemble. C'est un bonheur, c'est un privilège en fait d'être avec vous. Vous pouvez écouter la radio de multiples façons, c'est très simple, soit au 102.1 dans votre radio, sur le site web de Boulevard 102.1 ou encore directement sur notre application qui est très accessible. Et pour avoir les caméras en studio, voir comment on s'habille, nos mimiques et avoir le chat avec les auditeurs en temps réel, c'est le twitch.tv/blvd/fm. Citation du jour. Ouais, parce qu'on commence toujours l'émission de cette manière-là. Et aujourd'hui, on en a une d'Albert Einstein. L'imagination est plus importante que le savoir. Parce que dans ta tête, tu peux te rendre plus loin. C'est très bon ça. L'imagination est plus importante que le savoir. Es-tu capable de défoncer tes barrières dans ta tête? Très fort ça. Merci Albert. Merci. Pour la météo aujourd'hui, parce que ça a été rocambolesque dans les dernières heures. Grosse pluie hier soir, l'avez-vous entendu quand vous dormiez? Est-ce que ça vous a réveillé ou ça vous a empêché de dormir? Il y a plusieurs personnes qui rapportaient ce matin comme quoi ça a été assez violent dans des secteurs en particulier, puis que oui, ça a empêché de dormir bien des gens. Il y avait de nombreuses pannes électriques qui ont été recensées depuis hier, depuis cette nuit. Pour la capitale nationale, on est autour de 6937 clients encore privés d'électricité. Les secteurs chauds, la Jacques-Cartier, Québec, hors MRC, là, tout ce qui est, entre autres, Saint-Augustin-des-Morts, l'ancienne Lorette, on est encore à plusieurs interruptions de courant. Sainte-Foy, il y en a énormément aussi, Québec-Est, Québec-Ouest, en fait, c'est partout à la grandeur de la capitale nationale. Cap-Rouge, vous n'êtes pas épargné, bien sûr. Pour Chaudière-Appalaches, quelques-unes aussi à mentionner, c'est 12 972 clients qui sont toujours privés d'électricité en ce moment, le 106 interruptions, mais c'est ça, Hydro-Québec est partout au Québec en ce moment. Des plus de 12 000 pannes, là, il y en a au moins dans 2, 3, 4, 5, 5 régions, grandes régions. Donc, on va s'affairer le plus rapidement possible. Mais on a du pain sur la planche pour Hydro-Québec. En avez-vous une panne électrique dans votre secteur? 418-971-1021. 29 février, année bissextile, année de changement, année de bourrasque, année de tout ce que vous souhaitez, mais année merveilleuse pour ceux qui sont nés le 29 février et qui attendent impatiemment leur vrai anniversaire. Le vrai jour de cet anniversaire-là est arrivé et c'est aujourd'hui. Dans un instant, on va parler avec Audrey, qui, elle, l'attendait le 29 février. C'est comme si une fois, 5 ans, 4 ans, elle a vraiment son anniversaire. On va y parler dans un instant. Entre quatre
murs bleus. Leur CV avec Pascal CV.
Caravane avec Kaléidoscope à Boulevard 101, c'est ce qu'on vient d'entendre. Le temps que j'appelle notre prochaine invitée, non, c'est pas une collaboratrice régulière. Non, c'est pas une personne que vous connaissez, mais c'est une jubilée aujourd'hui. C'est sa fête, sa vraie fête, en ce 29 février. C'est une auditrice, elle est en gang avec nous dans leur CV depuis longtemps à Boulevard 101. Ce qui me fait rire, par contre, c'est que après tant d'années à attendre sa fête, c'est aujourd'hui. Puis c'est peut-être le plus grand désir et fantasme de ceux qui n'aiment pas fêter leur anniversaire, mais quand t'aimes un peu ça, ou du moins que c'est le temps de le festoyer, puis que pour toi, à chaque année, tu fais comme bon, c'est le 28, je vais faire semblant que c'est ma fête. Quand le 29 arrive, quand l'année bissextile arrive, bien, ça en rend plusieurs heureux. Juste autour de moi, j'en connais au moins trois. Puis on va aller parler à Audrey Bonneau, qui est au bout du fil et qui a congé aujourd'hui, justement, parce que c'est une journée spéciale. Salut, Audrey!
Salut!
Hey, bonne fête!
Merci, c'est gentil, merci beaucoup.
Hey, là, c'est la vraie journée de ton anniversaire. Ouais. Ça paraît un peu niaiseux là, d'en parler, mais je pense que c'est important, c'est un peu humain, c'est particulier. 29 février, pour toi, c'est quoi?
Ben, c'est ma fête, c'est ma vraie fête. Les autres années, c'est pas pareil, tu sais, je veux dire, ben... Pour me consoler,
ouais.
Ce que je fais, c'est que je fête le 28 et le 1er.
OK, toi, tu te donnes deux fêtes quand c'est
ben
pas une année.
Non, le bon Dieu, il avait jamais donné une vraie fête. Alors, l'année que c'est le 29, c'est le 29, je suis contente. Mais sinon, c'est le 28 puis le 1er. Parce que dans le fond, tout mon entourage, ils savent pas. Fait que le 28, ils disent, bon, ben, je vais te le dire aujourd'hui, au cas que demain, on ne sait pas trop. Puis il y en a qui disent, non, si c'était pas né le 29, tu serais né le 1er. Fait que j'ai toujours des souhaits de fête qui durent les deux jours. Fait que je fête deux jours ou le vrai 29.
Mais c'est pas une mince consolation, ça. C'est quand même plaisant, deux jours
ouais,
au lieu d'une.
Exactement.
Mais t'attends le
29. On s'arrange avec ça.
Mais t'attends le 29 toujours avec pur bonheur quand même. Là. C'est quoi la particularité d'une personne qui est née une année bissextile au quotidien?
Tout le monde trouve que c'est vraiment particulier. Là. T'sais, c'est vraiment chaque fois que tu dis... je suis né le 29, c'est comme, ah, t'es né le 29, pauvre toi! Tout le monde dit pauvre toi. Moi, je trouve pas que c'est pauvre toi. Mais on pense pas que c'est. Ça peut causer des problèmes quand même, parce qu'il y a beaucoup de trucs d'inscription. Tu sais, si tu fais des cartes de crédit ou si tu. Au gouvernement, tu sais, des fois, il faut que tu coches. Bon, moi, c'est 1972-02. Bien, souvent, il n'y a pas le 29.
T'es sérieuse?
C'est vrai. Alors là, ça peut causer des problèmes.
Ils se sont pas adaptés à ça. Mais tu fais quoi dans ce temps-là? Tu mets le 28 ou le 1er ou tu t'obstines
ben,
avec...
Je mets le 28, mais je veux dire, souvent, ça balance pas ou ils m'appellent puis ils disent ça marche pas. C'est comme, oui, mais sur votre site, vous l'offrez pas. Fait qu'une fois sur 4 ans, tu sais, peut-être qu'informatiquement parlant, je sais pas...
On pourrait s'améliorer.
Le 29, mais c'est une fois par 4 ans. Mais tu sais, fait que souvent, il y a pas le 29 quand on essaie de cocher... des trucs de sécurité ou des trucs comme ça.
Hey, c'est donc bien intéressant,
ça. Au quotidien,
ça.
C'est ça, ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est, écoute, tout le monde dit « pauvre toi », mais moi, ça va, là. C'est particulier, c'est le fun.
Y a-t-il d'autres problèmes associés à ça, être né un 29 février?
Je pense, non, pas ça ne vient pas... ben, à part d'avoir 13 ans, là, c'est sûr, moi, aujourd'hui, j'ai 13 ans. Fait que c'est sûr que... Non.
C'est tout le temps
mais,
la fameuse blague.
Non, à part gouvernement ou inscription ou trucs comme ça, là, chez le médecin ou... par ordinateur, là, mais sinon, non. Au quotidien, c'est vraiment juste administrativement parlant que ça peut déranger.
Et toi, ça veut dire qu'à tes 4 ans, tu as fêté pour la première fois ton vrai premier anniversaire quand tu étais jeune.
Ça fait 13 fois dans toute ma vie que j'ai ma vraie date de fête. Ça fait, c'est la 13e fois seulement. Il y a 0,06% de chance d'être né le 29 février. C'est vraiment peu, là.
Pour vrai? Est-ce que tu en connais d'autres, des gens qui sont nés le 29 février? Ou?
Moi, non.
Okay.
C'est rare que les gens me disent « Ah oui, moi, ma cousine! » Tu sais, c'est assez rare. Là. C'est drôle, hier au bureau, quelqu'un m'a dit « Mon grand-père est né le 29 février. » Puis toi, ça m'a surpris d'entendre que tu en connaissais trois.
Oui, oui. Mais je salue même quelqu'un de mon âge, journaliste à Radio-Canada, Guillaume Piedbeuf, qui lui aussi avait bien hâte que ce soit le 29 pour fêter son anniversaire aujourd'hui.
Ben, on est un peu bébé, là, vu que c'est la vraie date. Là, mais il y en a quand même très peu. Très peu.
Là, tu dis qu'on est bébé parce que toi, tu as pris une journée de congé pour être sûr de bien en profiter de cette journée d'anniversaire.
Une fois par 4 ans, je serais pas au bureau certain. Là. Non, 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 j'en profite au max, là, c'est sûr.
Les auditeurs sont crampés. Pour vrai, Audrey, t'es tellement de bonne humeur. Tu nous fais sourire ce matin. Qu'est-ce que t'as de prévu aujourd'hui, entre autres, pour fêter ce 29 février-là, soit ton anniversaire?
Ben là, j'ai commencé la journée avec un déjeuner en famille, avec toute ma famille. Je poursuis avec un soin. Tu sais, les filles, on aime ça, des massages, des trucs comme ça. Fait que je vais aller me faire gâter. Puis ensuite, non, j'ai des amis qui viennent à la maison ce soir. J'en ai demain aussi. Fait qu'on va s'organiser pour avoir un beau jeudi, vendredi, puis on va une belle fin de semaine. Là, je me gâte.
Hey, je pense en plus que tu en vas te faire masser chez une de nos clientes à Boulevard 102.1, Chantal Bernard, chez Authentique, sur l'avenue Larue, à Courville. Oui. Alors, elle va être gênée qu'on l'ait nommée, donc tu lui diras qu'on a fait ça à la radio.
Je vais lui dire avec plaisir. C'est vraiment une place parfaite à aller. Elle est vraiment géniale, elle est vraiment douce.
Prends soin de toi, Audrey. Bon anniversaire. Bon anniversaire à tous ceux qui... Tout le monde te souhaite bonne fête en ce moment dans les textos au 88-971-1021.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Salut, bonne journée.
Salut, merci. Bye-bye.
Ah, ça, c'est drôle quand même. Une personne qui fête son anniversaire le 29 février, c'est la vraie journée aujourd'hui. Alors, à tous ceux qui sont concernés, bon anniversaire. Il y a des gens qui ont envoyé aussi d'autres citations avec Albert Einstein parce que c'était lui, la vedette d'aujourd'hui, après Audrey, bien sûr, et tous ceux qui sont nés le 29 février. Je vous parlais de la citation du jour tantôt et elle était simple. L'imagination est plus importante que le savoir. Et vous avez été nombreux à écrire d'autres citations que vous aimez de cet homme-là. Entre autres, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Puis, il y en a un, il va falloir que je la vérifie parce que Fred, des fois, c'est un humoriste qui dit « Placez votre main sur un poêle une minute et ça va vous sembler durer une heure. Assoyez-vous près d'une jolie fille une heure et ça va vous sembler durer une minute. » C'est ça, la relativité. Salut, Fred. Salut, merci d'être là. Dans un instant, on parle à Patrick Mathieu, notre expert en sécurité informatique. Je ne sais pas si vous avez vu les articles aujourd'hui, mais Patrick va commenter, entre autres, le fait que vous pouvez être retracé assez facilement sur vos réseaux sociaux avec même des comptes privés ou encore des comptes bloqués. Et vous pouvez être poursuivi aussi peut-être pour des commentaires dans les médias sociaux. De plus en plus, on en jase et ça va être important dans cette ère de modernité. Puis il y a également une autre nouvelle qui a fait réagir. C'est le Québécois qui travaille pour ChatGPT et qui craint que l'humanité perde totalement le contrôle. Et vous, avez-vous peur de ça?
Jusqu'au 10 mars. Leur CV avec Pascal CV.
Ouais, vous êtes dans l'heure CV, je vous accompagne jusqu'à 11h et ensuite, ce sera Marceau le midi. Merci d'être en grand nombre sur le Twitch, entre autres. Toujours plaisant de vous parler durant les pauses. Je vous avais dit qu'on allait le recevoir, mais tout juste avant, nouvelle de dernière heure hautement importante. L'heure est grave, mes amis. Vous savez, c'est la nouvelle partout au Québec depuis quelques heures. La présence en trop grand nombre de dindes sauvages sur notre territoire qui causent des terreurs, qui causent des drames, qui causent des vidéos virales aussi sur les réseaux sociaux. Mais là, il y a un auditeur qui a pris la peine de nous informer, puis ça, c'est de sources sûres, que Breaking News, dans le coin de Lac-Etchemin, de Saint-Léon, de Standon, il y a un troupeau de dindes sauvages, donc deux familles de dindons sauvages sur la route, là, directement sur la route entre Lac-Etchemin et Saint-Léon de Standon. Il semble paisible pour le moment, mais fallait vous aviser. Et si jamais vous vous en approchez, elle pourrait être absolument agressive. Alors, faites attention. C'est le temps d'une dinde dans ce coin-là. Pour parler de choses, j'allais dire plus sérieuses, mais non, il n'y a pas grand-chose de plus sérieux que ce que je viens de vous dire, en fait. Mais on va aller quand même rejoindre notre collaborateur en sécurité informatique qui est à l'autre bout du fil. Salut, Patrick Mathieu.
Hey, bon matin.
As-tu, toi, peur de tout ce qu'on voit là, en ce moment sur le territoire de la grande région de Québec, soit des grandes dindes sauvages, immenses et obèses qui courent après le monde?
Pas encore, mais... très intéressant.
Toi, t'es plus au nord, fait que c'est sûr que
oui,
t'en as pas de ton côté, mais le jour où t'en as une sur ton terrain, on se reparlera. Mais je t'ai contacté pour parler d'autres choses. Entre autres, aujourd'hui, une nouvelle sur le fait qu'on pourrait être poursuivi pour des commentaires dans les médias sociaux. Donc, ceux qui dépassent les bornes ou encore qui sont injurieux ou encore qui, justement, probablement se croient cachés derrière leur clavier, derrière leur écran et se croient tout permis dans certaines communications, pourraient se ramasser en cours, Patrick.
Ouais, ça s'annonce comme un autre désastre gouvernemental sur la censure sur Internet. Il y a le gouvernement fédéral qui essaie de faire ça, là, le provincial veut faire ça avec plein d'autres lois là, récemment qui réduisent nos droits. Si on fait juste parler de concept de la loi 101, vous ne pouvez plus suivre de formation sur Internet si c'est pas 100% français. Fait que ça s'ajoute une après l'autre là-dessus. Puis malheureusement, ben oui, on peut se faire retracer super facile sur Internet. Tout le monde a une adresse. Fait qu'il faut vraiment, vraiment savoir comment faire. Mais le problème, si ça va en cours, ben il va falloir vraiment que ça respecte la charte des droits, puis tout ce qui est liberté d'expression, etc. Là, c'est sûr qu'on parle pas de menace de mort. Là. Ça, c'est différent. Si c'est de l'insulte pour se faire poursuivre, rendu là, je pense que c'est vraiment de la censure. Puis il va falloir qu'il y ait des règles au niveau des entreprises d'Internet, là, Bell, Vidéotron et autres, pour pouvoir détecter ça, pour accepter les demandes de la police pour donner vos adresses, etc. Pas un dossier facile.
Non, parce que j'avais déjà vu, par le passé, je couvrais un procès de viol collectif, là, puis il y avait eu droit, en fait, les policiers ou encore la cour de mettre la main sur des échanges Messenger dans le temps pour justement les présenter comme preuve, la couronne qui les présentait comme preuve au jury. Et bon, c'est sûr que nous, en étant dans la salle et en couvrant ces choses-là, on voyait aussi ces échanges-là déposés comme preuve. Ça m'avait surpris de me dire, mon Dieu, OK, ça peut être aussi facile. Bon, ça dépend dans quelle situation. Je veux dire, vous n'allez pas avoir accès aux conversations qu'on a avec nos amis pour n'importe quelle raison. Mais c'est là où je me disais, bien, c'est quand même assez facile de, quand on se pense protégé par une application ou encore une boîte de conversation privée, à ce que des gens puissent y entrer. Si la cour, si les policiers peuvent y entrer, est-ce que des kidams qui sont bons en informatique sont capables de craquer nos conversations privées?
C'est un peu compliqué parce que si on prend Facebook, là, il essaie de mettre dans les conversations privées le chiffrement de bout en bout. Ça veut dire qu'aucun service de police ou autre pourrait voir ce qu'il y a dedans.
Dans les conversations cachées, là, qu'on a aussi accès?
Oui, mais dans le fond, toi, tu as accès avec les personnes que tu communiques,
oui.
Mais Facebook et autres n'y auraient pas accès parce que c'est chiffré de bout en bout.
Okay.
Le problème de ça, c'est que le parcours de Facebook prouve que généralement, ce qu'ils font en termes de vie privée, c'est vraiment pas super. Mais admettons que ça fonctionne comme il faut, parce qu'il y a des applications là, comme Signal sur votre téléphone qui est encrypté de bout en bout, puis qu'on peut pas, la police peut pas rien faire. Toutes les demandes du FBI à cette entreprise-là, la seule chose qu'ils disent, c'est oui, le numéro de téléphone existe, la dernière communication date de X. La seule info qu'ils peuvent avoir sur Facebook n'est pas à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de tracking et d'informations. Donc, ça, c'est un point. Mais l'autre point, est-ce qu'un des méchants peuvent entrer dedans? Ben, il faudrait qu'ils compromettent la sécurité de Facebook puis qu'ils rentrent dans les systèmes ou qu'ils compromettent la sécurité de votre laptop. Ça, c'est généralement vers où, quand il y a des crimes, là, on parle pas d'insultes sur le web, là, c'est un peu bidon, mais quand il y a des vrais crimes, la police va généralement s'introduire ou essayer de s'introduire dans les systèmes personnels des criminels. Fait que là, ça leur donne accès à leur laptop, à leur ordinateur de maison, puis c'est à partir de là qu'ils peuvent voir toutes les infos faire passer pour eux. Donc, nécessairement, s'ils sont déjà connectés dans Facebook, peu importe le système qu'ils utilisent,
ils
vont avoir accès parce qu'il est connecté. Mais via une demande d'injonction, un mandat, peu importe, ben là, c'est différent parce que l'entreprise en tant que telle, si c'est chiffré, ben ils ne voient rien. Et si ça ne l'est pas, ils vont vous donner l'information. Là. La majorité du monde sur Internet n'utilise pas des technologies pour se cacher. Donc, toutes les entreprises ont toutes vos IP, puis le IP n'est pas la seule information qu'ils utilisent. Ils sont capables de faire ce qu'on appelle un fingerprint, là, d'identifier à 90-99% qui tu es, juste basé sur ton browser, les fonts utilisés, la grandeur de ton écran, que c'est Chrome telle version. Puis il y a à peu près 100, 150 points comme ça qu'ils peuvent dire. Fait qu'ils peuvent presque identifier exactement t'es qui, même sans savoir ton adresse. Fait que c'est dur se cacher en ligne si vous ne savez pas quoi faire.
Mais j'ai une question pour toi. Là, on parlait beaucoup des policiers, des gens qui sont dans le FBI, dans les enquêteurs et tout. Mais admettons que quelqu'un est assez ferré en informatique ou encore est un pirate informatique, mais que ce soit négatif ou positif. Là, est-ce que tu penses que des gens qui réussissent à entrer dans des ordis de tous et chacun ou encore dans des comptes Instagram, dans des comptes Facebook qui sont au préalable privés pour peut-être aller chercher de l'information pour n'importe quelle raison que ce soit? Là?
Ça arrive à tous les jours. Là. On l'a vu dans les médias avec l'entrepreneur là, François Lambert. Il a cliqué sur un lien, il a donné ses passwords à tout le monde, s'est fait pirater sa page Facebook. Puis vous utilisez un mot de passe qui est le même partout, puis qu'il y a un de ces sites-là qui s'est fait pirater, bien, ils vont essayer de se connecter partout avec. Donc oui, c'est votre password de Facebook, c'est le même que votre courriel, puis qu'un site bidon que vous allez. Bien, si ce site-là se fait pirater, bien, toutes les autres sont vulnérables à se faire rentrer dedans. Et en plus, bien évidemment, si vos mots de passe sont vraiment, vraiment poches, quand on dit poche, c'est qu'ils sont moins de 12 à 16 de long, puis que c'est une phrase connue ou un mot connu, souvent, ça va être assez simple là, de réussir à rentrer dedans. Okay. Je te dirais 80 % des cas, c'est du phishing. Ça va être un lien que quelqu'un va cliquer dessus, puis là, c'est game over.
OK. C'est pas nécessairement très facile d'entrer sur un compte ou une application ou autre à distance sans envoyer un lien comme ça.
Non, exact. Okay. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a toujours des vulnérabilités. Là. Il y a toujours du monde qui font du hacking web et autres vont réussir, à, avec beaucoup de temps, à trouver des problèmes pour potentiellement aller là. C'est juste Facebook. Il y a plein. Si vous cherchez le concept de bug bounty sur le web, puis vous cherchez Facebook, les rapports qui ont été mis publics, il y en a des centaines. Il y a des bugs à tous les jours qui se trouvent là. Fait que oui, il y a des criminels qui vont utiliser ça pour essayer de rentrer dedans.
Ouais. Ah, OK, excellent. Puis peut-être terminer avec une nouvelle, mais j'ai l'impression qu'on a parlé souvent, Patrick, sauf que ça fait la une aujourd'hui dans le Journal de Québec, un Québécois qui travaille pour ChatGPT et qui craint, et on le cite, que l'humanité perde totalement le contrôle. Est-ce que c'est un article qui aurait dû exister ce matin, Patrick?
Bien, je veux dire, ça fait quoi, là, 3-4 ans là, qu'on parle d'intelligence artificielle qui n'a aucune intelligence dedans? Le sujet a déjà été découvert des centaines de fois, que ce soit à Québec ou par Musk et autres, là, peu importe. On est loin de là. La seule affaire, c'est que oui, il faut réglementer tout de suite et pas attendre que quelque chose de tout croche arrive. Mais aujourd'hui, c'est des statistiques. Là, le machine learning, c'est pas de l'intelligence. C'est un set de données prédéfinies qui a un algorithme qu'on comprend pas. Il fonctionne dessus. Fait qu'on ne sait pas pourquoi ça donne les résultats.
Okay.
Le problème, c'est que dépendant comment l'algorithme est construit avec les billets, puis tout, les résultats sont tout croche. On en a parlé des dizaines de fois.
Mais pourquoi ce Québécois-là, Mathieu Roy, qui occupe un poste clé, qu'on dit dans la californienne OpenAI, a si peur de ChatGPT?
Dur à dire. Je veux dire, c'est soit qu'ils sont pas très bons en sécurité, ce qu'on sait. Là. Ils n'ont pas vraiment d'équipe de sécurité, fait que ça aide pas. Pourquoi qu'il a peur que ça dégénère? Parce qu'il y a des millions et des milliards qui sont mis dans ce domaine-là pour essayer de faire ce qu'il dit.
Okay.
On est là, pas partout, mais faut mettre... En fait, je pense que la tactique est un peu de faire peur au gouvernement pour qu'il mette en place des lois. Fait que si on commence aujourd'hui, d'ici 20 ans, peut-être qu'on va faire quelque chose.
Peut-être qu'on va y arriver.
Mais officiellement, je veux dire, on n'est pas dans un endroit où ce que l'intelligence est réelle. Le problème, c'est l'utilisation de l'AI par les entreprises et le gouvernement en pensant que c'est intelligent. Mais avec tous les biais, les problèmes des AI, sans parler des vulnérabilités informatiques là, puis des attaques, mais le problème juste à la construction, c'est que si on se fie réellement à ça, il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'on se fie à quelque chose qui n'est pas juste. Il n'y a pas de sens. Puis moi, je pense que c'est plus ça l'enjeu versus une machine qui est meilleure que nous. Elle est plus rapide que nous, mais est-ce qu'elle est meilleure? Je pense pas qu'on peut dire ça aujourd'hui.
Excellent. Un gros merci, Patrick Mathieu, d'avoir éclairé tout ça avec nous aujourd'hui.
Pas de trop, bonne journée.
Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, qui, lui, n'a pas d'Inde dans son coin de pays. Pourtant, il est sur le territoire de la très, très grande région de Québec, mais il est plus au nord. On fait des blagues avec ça, mais c'est pas mal la nouvelle du jour. Et Sarah Dufour, à Boulevard 101, est avec nous dans un instant. Le temps que j'aimerais que vous répondiez à une question, s'il vous plaît, aujourd'hui, 29 février, année bissextile. On passe au mois de mars dans quelques heures seulement, mois de mars, printemps et autres. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous allez voir, on va revenir sur le sujet. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite des choses dans votre vie? 418-971-1021, 418-971-1021 ou encore sur Twitch. Voilà Sarah Dufour avec Semi-route, Semi-trail à Boulevard 101.
RCV avec Pascal CV.
Les nouvelles au quotidien, souvent ce qu'on voit ces temps-ci, c'est des mises à jour en fait sur les gros dossiers, la santé, l'éducation, loi sur la laïcité de l'État, ça vient de revenir dans l'actualité récemment, là, mais la Cour d'appel va rendre sa décision aujourd'hui sur tout ce qui se passe en loi générale, sur les signes religieux, les commissions scolaires anglophones aussi, les élus à l'Assemblée nationale. Il va falloir rebrasser tout ça aujourd'hui. Puis c'est un dossier quand même qui est étudié, mais à suivre pour voir l'importance de tout ça dans l'actualité. Quand on a, entre autres, les délais ambulanciers qui font la une. L'ajout d'ambulances, c'est pas au cœur du plan d'action du ministère de la Santé. Cette semaine, en début de semaine, on a reçu un ambulancier pour nous parler de tout ce qui est problématique sur les territoires en ce moment de la capitale nationale, puis même un peu à l'extérieur, Rive-Sud, Chaudière-Appalaches, là. Mais on a besoin de véhicules d'urgence, de véhicules ambulanciers. Ce qui se passe souvent, c'est qu'ils sont bloqués du côté de l'urgence à l'hôpital. En fait, quand un ambulancier prend en charge un patient, il arrive à l'hôpital, et si on n'est pas capable de l'amener à l'autre étape, soit après son entrée à l'urgence, bien, l'ambulancier doit rester des fois avec son comparse à côté de la personne prise en charge dans une civière ambulancière pendant un bien long moment, ce qui fait en sorte qu'ils sont à la queue leu-leu, là, les ambulanciers avec leurs patients, et l'ambulance n'est pas sur le terrain. Donc, on manque d'effectifs et c'est pourquoi on est en train d'essayer de trouver des solutions et la solution, selon le ministère de la Santé, ça ne sera pas l'ajout d'ambulance, qui est particulier quand même parce que dans les délais de réponse, on se rend compte qu'il y a des gens qu'on aurait pu sauver, qu'on n'a pas réussi à sauver à travers le temps. Et ça, les statistiques le montrent, les ambulanciers en parlent. Et il y a deux ambulancières qui s'étaient confiées à Yannick Marceau aussi récemment sur un appel qu'elles avaient reçu, puis sachant qu'elles ne seraient pas capables d'être là en temps, elles échappaient le patient qu'elles auraient pu sauver. Donc, c'est très exigeant mentalement aussi pour tout ce qui est psychologique là, du côté des ambulanciers. C'est loin d'être facile, mais Québec a choisi plutôt de miser sur l'action citoyenne et les premiers répondants que sur l'ajout de véhicules pour améliorer les services d'urgence. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais le ministère de la Santé va miser sur des cours de secourisme, des cours de premiers répondants et non sur l'ajout d'ambulances. C'est ce que le bureau d'enquête de Québécois s'est rendu compte et a réussi à éplucher, en fait, comme documentation. Et c'est ce qui ressort, en fait, du tout premier plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence. Ça, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a mis ça sur pied. Et bon, c'est une exclusivité du journal. 82 pages. 82 pages qui doit être rendue publique là, en ce moment. Là, on est en train justement d'en parler. Et ça détaille tous les investissements. C'est de l'argent, là. C'est 630 millions de dollars qui seront injectés sur 5 ans pour bonifier les services actuels. On n'est pas dans le plus d'ambulances. Et ça, c'est fascinant d'en parler parce que avec notre invité qui était venu cette semaine dans Marceau le midi, ce qu'on essayait de mijoter, brainstormer, et surtout de ses connaissances et de son quotidien, ce qui aurait été avantageux d'avoir, c'est une équipe peut-être même préhospitalière sur place à l'urgence à qui on amène les patients et on peut retourner en tant qu'ambulancier sur le terrain par la suite pour s'occuper des appels qui vont entrer. Mais justement, de ne pas avoir à rester près du patient à l'hôpital puis d'attendre pour rien, ou encore d'une équipe d'infirmiers et infirmières qui s'assure de prendre en charge, autre qu'à l'urgence, ces gens-là qui sont amenés par ambulance. Pour lui, c'était une solution envisageable qui aurait aidé aussi beaucoup à ceux qui travaillent dans le dossier. Mais On veut renforcer la première ligne en n'ajoutant pas nécessairement de main-d'œuvre. Et ça, ça fait beaucoup réagir parce que le premier axe du plan, c'est plutôt de rendre disponibles et accessibles ces formations de secourisme-là. Mais est-ce que vous, vous en avez au travail? T'sais, nous, on a des collègues, puis dans plusieurs entreprises, on a des collègues délégués qui ont décidé, en levant la main, de faire ces formations-là. Et on espère qu'ils soient là si jamais il arrive quelque chose. Mais c'est un pourcentage de mes collègues qui ont justement ces formations-là. Bon, c'est pour les outils et autres, mais il faut des mises à jour. Il faut aussi avoir à se pratiquer plus régulièrement que lors de ces cours-là pour, je pense, être à l'aise d'intervenir si jamais il se passait quelque chose. Le Québec, là, est traîne de l'arrière, en fait, en matière de secourisme. C'est là où peut-être le gouvernement souhaite aller parce que quand on se compare, on voit que peut-être 80 % des citoyens de la Norvège, par exemple, qui ont suivi une formation de premier secours et qui sont en mesure d'intervenir quand il se passe quelque chose avant l'arrivée des ambulanciers. C'est ce qu'a exposé le ministère. Puis c'est pour ça qu'ils ont choisi, entre autres, cette action citoyenne là, soit d'augmenter la survie d'une victime en arrêt cardio-respiratoire par le fait qu'on ait plus de formation auprès des citoyens. Ça augmenterait de 3 fois la survie d'une victime en arrêt respiratoire. Des défibrillateurs aussi qui seront obligatoires. Dans certaines entreprises, c'est obligatoire, mais là, on veut vraiment légiférer certains endroits qui devraient être obligatoirement munis d'un défibrillateur externe automatisé. C'est celui que tu ouvres la petite boîte là, puis qui te parle, puis qui te permet justement d'intervenir avec quelqu'un qui te suit, une voix dans le contexte pour te montrer comment faire si jamais tu as besoin. Ça reste que c'est particulier parce que je ne sais pas, mais moi, en l'ayant suivi au secondaire, cette formation-là, je ne suis plus du tout dans la capacité d'intervenir auprès de quelqu'un. Je pourrais m'en rappeler semi, là, mais certainement avec quelqu'un au bout du fil qui m'oriente puis qui m'aide justement à intervenir, mais je ne me sentirais pas en confiance de le faire. Puis j'ai parlé avec des collègues aujourd'hui qui ont eu cette formation-là il y a quelques mois seulement. Là. C'est tout frais. Et pour eux aussi, ça reste très stressant si jamais ils ont à intervenir, bien qu'il y ait eu la formation récemment, ne sont pas nécessairement outillés pour justement réagir et s'assurer que la personne soit sauvée. Quelqu'un qui dit aussi « j'ai mon cours », mais la réalité, c'est que la réanimation n'a un taux de réussite de moins de 30 % environ selon ce qu'on nous avait dit pendant le cours. Donc, ça ne peut pas remplacer un paramédical. C'est quelqu'un qui nous écrit ça aussi. Pas de mauvaise idée, le plan Dubé, selon Steve, qui nous dit « oui, c'est bon de peut-être faire en sorte que les citoyens soient mieux préparés ». Moi, je suis tellement d'accord avec ça aussi. Cependant, est-ce qu'on peut juste se fier à ça? Je ne suis pas sûre, vu le stress, vu la non-pratique des citoyens et autres. On nous dit aussi, un pompier de Lévis m'a déjà expliqué que les ambulanciers arrivent presque toujours trop tard. Donc, c'est eux qui donnent les soins pour les pompiers, entre autres. Oui, j'en connais beaucoup qui arrivent très rapidement là, sur les situations d'accident ou encore de détresse humaine. Les pompiers ont ces genres de formations-là. Ils ne sont pas à 100 % formés comme les paramédics. Là. Je m'excuse, j'ai dit les ambulanciers, puis le terme a changé à travers le temps, mais comme les paramédics. Souvent, quand ils arrivent, bien, c'est à la suite des premières réponses de sécurité, santé-sécurité que les pompiers ont commencé à faire auprès de ceux qui sont concernés, des victimes, en fait, ou encore des gens en détresse. Là. On le voit souvent, un pompier commencer un massage cardiaque et l'ambulancier arriver, le paramédic, pour faire une réanimation complète par la suite, puis prendre le relais et transporter les gens à l'hôpital. Mais c'est un questionnement de société, en fait, qu'on a en ce moment. Est-ce que la solution aurait été d'ajouter, oui, ces premiers répondants-là, former plus de personnes, encourager, en fait, qu'on ait une couverture citoyenne beaucoup plus expansionnée que celle qu'on a en ce moment, mais avec aussi l'ajout d'ambulances? Là, c'est peut-être juste un traitement d'argent puis de priorité pour tous et chacun, mais quand on entend justement les discours comme on a eu ici autour de la table en début de semaine, que vous pouvez reprendre en passant sur le blvd.fm, ça sonne des cloches, puis il n'y a jamais personne de plus ferré qu'une personne qui travaille dans le domaine pour nous exposer sa réalité. Là, hein? Puis Stéphane qui nous dit aussi, très différent entre la pratique, ce genre de cours-là, et la réalité. Malgré la pratique, plusieurs peuvent figer aussi en situation de stress ou en situation de détresse comme ça, et d'autres qui vont faire la job. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont formés seront capables. C'est un très bon point, ça. Merci à tous de participer à l'émission. Je vous répète la question du jour. À ce moment-ci de l'année, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite avec vos défis actuels, avec votre état d'âme actuel? Si vous réfléchissez au nouveau mois qui s'en vient demain, parce qu'on est le 29 février, vous souhaitez quoi? 418-971-1021. Les vulgaires machins avec Obsolète à Boulevard 1021. On annonçait récemment l'annonce, en fait, de la programmation qui sera annoncée pour le Festival d'été de Québec. Il y a des petites choses qui sont sorties. Entre autres, on sait qu'en mars prochain, le 19 mars prochain, ce sera la pré-vente des jardins pour les fans du FEC qui vont pouvoir se trouver des passes dès le 19 mars prochain. Et le 20 mars, on va livrer cette programmation tant attendue qu'on aura comme artiste, en fait, sur les plaines d'Abraham ici à Québec. Et souvent, à ce temps-ci de l'année, bien, on va aller comparer avec les programmations qui ressortent de d'autres festivals. Et ça, c'est tombé dans les dernières heures, en fait. Le Blue Fest d'Ottawa, c'est souvent un bon indice, en fait, pour trouver qui va venir ici sur les plaines d'Abraham lors du Festival d'été de Québec. Ça donne certains indices. Parfois, ça arrive, parfois, ça arrive pas. Mais le Blue Fest d'Ottawa, c'est dans les mêmes dates environ que le Festival d'été de Québec, du 4 au 14 juillet. Sur l'affiche qui a été dévoilée ce matin, beaucoup de noms. Beaucoup de noms, comme les Killer Mike, Future Island, The Tea Party, Ben Howard aussi, très bon Ben Howard en passant. Mais il y a aussi des artistes que vous connaissez énormément, Talk. Mais si on s'en va dans le plus connu encore, ce qui est sorti, c'est Maroon 5. Un band très connu qui a fait sa marque. Je ne sais pas si en show ils sont excellents. J'ai déjà eu des critiques négatives. Plus dans les cordes de Boulevard 101 et de vous, chers auditeurs, Motley Crue. Ça a été annoncé parmi les artistes au Blue Fest d'Ottawa. Est-ce qu'on les aura ici, à Québec, sur les plaines? Gang de cheveux longs restés poignés dans les années 80 avec leur coiffe que même les femmes arboraient fièrement à Motley Crue. Ça pourrait être tout un succès sur les plaines d'Abraham. En tout cas, c'est sûr que vous allez m'y voir si jamais. Zac Brown Band aussi est sorti parmi les noms d'artistes qui se retrouveront au Blues Fest d'Ottawa. Entre autres, Chicken Fried là, sur les plaines, soirée country. Ça peut bien se prendre. But it's filled with love that's grown in southern ground. And a little bit of chicken fried. Cold beer on a Friday night. Un autre qui sera du côté d'Ottawa et qui a repris la tournée dans la dernière année au grand plaisir des nostalgiques qui chantaient ses chansons sans jamais connaître ses paroles. On était un Québec en manque d'apprentissage d'anglais quand ça c'est parti puis que ça roulait sur toutes les radios. Maintenant, on censure des chansons qui sont bien moins pires que ça. Mais 50 Cent est de la programmation. Bonne fête à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en ce 29 février, mais c'est pas le même genre de fête que 50 Cent, tu parles, mais c'est pas grave, on va faire semblant. Une chanson 100% féministe, oui, 50 Cent, c'est plate, mais on l'aime quand même. NAS, New York State of Mind, ça aussi, ça a été annoncé, ce sera au Blues Fest d'Ottawa, à faire frémir bien des gens qui adorent cet artiste-là. A monkey flipping with the funky rhythm, I be kicking. Musician, inflicting composition of pain. I'm like, je connais pas son passé, mais j'espère que ce sera pas comme certains autres rappers qui finalement passaient jamais aux douanes. Mais s'il est au Blues Fest d'Ottawa, je peux pas croire qu'on n'ait pas vérifié ça. Ou encore, il va manquer deux spectacles. Je fais des blagues. Je ne connais pas son pedigree et je ne veux pas avoir une plainte de sa part. Et l'un des grands noms qui pourrait atterrir ici à Québec également, qui ferait bien plaisir, je pense, aux auditeurs de Boulevard 101, c'est Neil Young. Fait partie des rumeurs. Autre rumeur qui court les rues de Québec depuis un bout, c'est Miley Cyrus. Et elle n'est pas sur la programmation du Blues Fest. Mais Neil Young, Heart of Gold, ça serait bon ça. C'est qui ça, Miley Cyrus? Ça rentre par texto, franchement. C'est sûr que vous connaissez Miley Cyrus avec une de ses chansons les plus populaires lors des derniers mois. Elle donnerait tout un spectacle. C'est une femme qui a une superbe voix, un grand dynamisme. J'irais. C'est sûr, 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 sûr. Ça, vous avez entendu ça. Un auditeur qui dit « Ça me surprendrait bien gros que Miley vienne perdre son temps à Québec. » Elle est dans un des plus gros festivals au monde, un festival extrêmement réputé. Les artistes parfois demandent à venir sans même qu'on leur demande en fait de venir. Ils se parlent entre eux aussi à quel point c'est extraordinaire le Festival d'été de Québec. On a fait notre renommée à travers le temps. Moi, je pense qu'elle serait capable, Miley Cyrus, de venir faire son tour à Québec. Et non pour perdre son temps, mais pour s'amuser. La fille est célibataire en ce moment. Elle a le goût de faire des spectacles. Elle a recommencé sa tournée. Elle est toute en voix et toute en... Elle est très assumée. Hein, quand on l'a vu la dernière fois, quand elle a fait sa chanson sur scène devant des artistes aux Grammys et qu'elle a dit, voyons, Flowers, celle que je viens de vous faire entendre. Vous la connaissez? Pourquoi vous faites semblant que vous ne connaissez pas les paroles et que vous n'avez pas de fun? La seule qui dansait avec sa gang, c'était justement Taylor Swift qu'on voit partout et dans la saison de football. Elle va dire ce qu'elle pense, puis ce serait fascinant de l'avoir ici à Québec. Alors, des beaux noms annoncés dans la programmation du Blues Fest d'Ottawa qui souvent nous annonce en partie qui sera au Festival d'été de Québec. La programmation sera annoncée, je vous répète, le 20 mars prochain. L'émission tire à sa fin tranquillement, pas vite. Je vois l'heure qui avance. Le temps de vous dire que dans la guerre des stupéfiants, il y a une autre arrestation. On est rendu à 24 pour une 24e arrestation à Québec. Le suspect est accusé de tentative de meurtre, de séquestration et d'enlèvement. Ça lui fait pas une belle jambe, on s'entend. C'est en fait cette opération d'arrestation qui a commencé dû au conflit sanglant qui oppose les Hells Angels, je vous rappelle, au gang de Dave Picturmel, un gang de rue très organisé finalement. Souvent, gang de rue, dans notre tête, ça sonne désorganisé, mais comme Maria Mourani, criminologue, nous a dit, non, ils sont rendus très organisés. Cette fois-ci, c'est à Beauport que les enquêteurs du projet Malsain et du groupe tactique d'intervention du service de police de la ville de Québec ont frappé. C'est un homme de 34 ans qui a été appréhendé vers 17 heures hier dans la foulée de la violence entre les groupes criminels. C'est le sixième suspect arrêté par la police de Québec dans ce dossier-là. Il doit comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec. Et comme je vous disais, ces accusations-là, ça ne lui fait pas une belle jambe au bas de résil. Là. Tentative de meurtre, enlèvement, séquestration. Il est détenu d'ici là. On ne le relâche pas dans la société. Le corps de police a affirmé qu'il y en a d'autres arrestations qui sont encore à venir dans le dossier. On est loin d'avoir terminé avec cette vague de violence-là. Et les répercussions, ben, il pourrait en avoir toujours. Mais au moins, on a enlevé des réseaux certaines personnes en mettant la main dessus. Et ce qu'on dit, c'est que la Sûreté du Québec, les policiers de Québec, de Saguenay et de Lévis vont donner une conférence de presse au quartier général du corps de police provincial pour faire le point sur la situation. Alors, on est toujours dans... la possibilité d'avoir des informations supplémentaires. On tient au courant la population. Je pense qu'il y avait une certaine inquiétude parce qu'on a vu justement le conflit dégénérer des fois dans les rues de paisibles de nos quartiers. Là. Puis c'est pas quelque chose qu'on souhaite qui arrive. Puis on veut resserrer la vis probablement avant qu'on voit un petit peu plus de faits divers sur des kidams comme on en voit à Montréal depuis quelques années. Et je termine avec la nouvelle internationale du jour. Très importante en fait cette nouvelle-là. Je veux absolument pas qu'elle passe sous le tapis. Vladimir Poutine qui a jugé que les menaces occidentales pour lui créent un réel risque de conflit nucléaire. Est-ce une menace? Est-ce quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est parce que là, il n'a pas envie justement que les Occidentaux commencent à s'en mêler puis il dit « je vais sortir l'artillerie lourde », comme on dit, c'est le cas de le dire, soit nommer une guerre nucléaire. On dit que si ça escalade avec le conflit en Ukraine, soit Russie-Ukraine et que les pays occidentaux commencent à s'en mêler d'autant plus, il a fait un discours annuel à la nation dans les dernières heures et il a dit priorité là-dedans, c'est la Russie. Et si les pays occidentaux s'en mêlent trop, il y a un risque de guerre nucléaire. C'est particulier de ramener ces mots-là. Il ne faut pas prendre ça à la légère, assurément, d'un Vladimir Poutine. Le hic est qu'une guerre nucléaire, quand tu parles avec des experts, ben, ça crée aussi énormément de risques pour la personne qui la déclarait. Donc souvent, ce n'est que des menaces. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il va falloir que ce soit analysé et beaucoup plus découpé, décrypté que ça par des experts en actualité internationale. On va aller parler prochainement à ces experts-là, demain fort probablement à leur CV, mais c'est important. Et c'est important aussi la communication de Vladimir Poutine. Allez écouter, en fait, ce que vous pouvez comme image de son discours, mais il s'est félicité d'avance pour l'avancée de ses troupes sur le front qui est à venir dans les prochains jours. Ça fait 2 semaines quand même que cette guerre retentit encore plus tragiquement qu'elle l'était. Et il était dans un ton très, très calme et il y avait des applaudissements réguliers du public, comme si on était dans un show de TV et qu'on avait demandé aux gens d'applaudir. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un show de télévision où on vous fait réagir, là, mais il y a des gens qui vous brandissent des pancartes pour vous dire « Maintenant, c'est l'heure d'applaudir, c'est ci, c'est ça. » Puis ça semblait être organisé de cette manière-là, mais le président russe là, est en meilleure posture qu'il y a un an quand on savait que son armée se faisait décimer encore plus par l'armée ukrainienne, qu'il y avait des drones qui étaient arrivés dans sa capitale, qui s'était rendu jusqu'à Moscou. Il y avait vraiment eu une peur du côté de Vladimir Poutine parce qu'à l'échelle mondiale, ce que ça donnait comme image, c'est que la Russie était, bien, parce qu'elle l'était, beaucoup moins fortifiée qu'on croyait, là, et il a voulu remédier à toute la situation, mais quand même évoquer le fait qu'il allait avoir peut-être une guerre nucléaire si les Occidentaux s'en mêlaient trop. C'est absolument important de savoir, de se tenir au courant de tout ça et de ne pas prendre à la légère les paroles de Vladimir Poutine. Il va avoir de la bisbille à l'international, puis c'est pour utiliser un mot complètement enfantin parce que c'est lourd comme situation et ça va le rester pendant un bout encore. Merci d'avoir été dans l'heure CV. On se retrouve dans un instant dans Marceau le midi. Gravel.